des déterminations de l'être, ces déterminations de l'être se manifestent à nous à travers les qualités. Toutes les qualités sont des déterminations de l'être. Elles sont donc liées à la substance. Alors, nous avions touché les qualités sensibles en dernier lieu, et j'y reviens parce que c'est très important de comprendre cette distinction que fait Aristote, et qui est une distinction capitale qui a disparu. Plus personne n'en parle. Entre les sensibles communs et les sensibles propres. Vous pouvez les distinguer tout de suite de cette manière que les sensibles propres sont propres à chacun des sens. La question, par exemple, de la qualité couleur, le sensible propre, c'est ce que la vue saisit et que les autres sens ne saisissent pas. Et vous pouvez, par exemple, voir une tache rouge. Sur une grande surface, ou la voir sur une toute petite surface. Cette qualité prend une signification différente, mais sa signification propre est toujours la même. Autrement dit, les qualités sensibles sont relatives à la quantité. Toutes les qualités sensibles sont reçues dans le corps à travers la quantité. Et la quantité modifie la manière dont ces sensibles propres nous atteignent. Par l'exemple classique, quand on plonge un couteau dans un bassin d'eau, il paraît cassé. C'est la quantité qui fait ça. La qualité du couteau est restée la même. Sa sensibilité propre de la vue. Mais il est vu dans une situation différente. Et ça modifie. Ça le modifie. Et je dis bien, ça le modifie. Ça ne change pas son caractère spécifique, son caractère propre. Le rouge reste toujours le rouge. Mais ce rouge prend une signification différente sur une grande étendue ou sur une toute petite étendue. Alors vous voyez, le sensible propre, c'est ce que chaque sens particulier saisi, ce qui est propre à ce sens, la qualité, la couleur de cette qualité. Et puis, le sensible commun, c'est la manière dont ce sensible propre existe. Il existe à travers la quantité. Et la quantité modifie ce sensible propre. Mais le sensible propre reste toujours le même. Et c'est une petite distinction qui est capitale. Hein, la distinction entre le sensible propre et le sensible commun. Et évidemment, dans la philosophie moderne, on ne regarde pas ça. C'est une distinction capitale parce que les sensibles, les qualités sensibles, commandent toutes nos expériences. C'est sûr. Pas nos expérimentations, mais nos expériences. Toutes nos expériences sont faites pour détecter, pour saisir les sensibles propres. Et le sensible propre ne se mesure pas. Il se saisit, il se connaît. Le sensible commun est mesurable. Vous mesurez la quantité de ce point rouge sur un drap. Vous pouvez mesurer sa quantité, mais en mesurant sa quantité, vous ne mesurez pas la couleur. Vous mesurez son sensible commun. La quantité est mesurable et la qualité n'est pas mesurable. La qualité du sensible propre, elle est propre à chacun des sens. Mon toucher touche le rugueux et le doux. C'est pas la vue. La vue pourra dire « Ah, sans doute ça doit être rigueux, et sans doute ça doit être doux. » La douceur du velours, vous le touchez. Pour sentir la douceur, c'est le toucher. Alors, évidemment, ce toucher est à travers une quantité. Et la quantité modifie mon regard sur cette qualité propre, mais ne change pas le sens de cette qualité propre. Il y a donc, vous voyez, jusque dans les sensibles, une distinction capitale entre la qualité et le sujet qui reçoit cette qualité sensible, qui est la quantité, et qui modifie ce sensible propre. Alors, quand on parle des sensibles propres, on parle justement de ce qu'il y a de propre à la qualité, ce qu'il y a d'unique. Donc, et qui se relie à la nature de cette réalité. Vous voyez ça pour les oiseaux, la couleur des oiseaux. Qui, selon les saisons, se modifie en Afrique. Et la qualité de l'oiseau exprime la petite bête, ce qu'est l'oiseau. Corbeau noir et le corbeau blanc, c'est pas la même chose. Et les qualités propres sont reliées à la nature de la réalité et donc à la substance de l'homme. La couleur des cheveux, comme sensible propre. Pas quand on les coupe, ça, c'est sensible commun. La qualité, on ne peut pas la couper. Qu'est-ce qu'on coupe ? La quantité. Cette quantité, elle est donnée dans le sensible propre. Or, les sensibles propres, justement, sont en relation plus ou moins directe avec la substance. La substance lorsqu'il s'agit de l'homme, c'est une substance informant un corps. C'est les sensibles propres me sont toujours donnés à travers le corps et donc à travers la quantité. Donc vous voyez, ils ne sont pas immédiatement reliés à la substance. Tandis qu'au contraire, ce qu'on avait vu la dernière fois, les habitus viennent qualifier l'intelligence. Et donc sont reliés beaucoup plus immédiatement à la substance. Alors il y a encore deux autres espèces de qualités, la disposition, qui est analogue, semblable à l'habitus. La disposition, c'est comme l'habitus à travers la quantité, à travers le monde relatif. La disposition, c'est mobile. L'habitus est fixe. Et la disposition, c'est une qualité mobile. C'est une qualité qui est toujours donnée à travers le mouvement et qui est toujours ordonnée à autre chose. On a une habileté. L'habileté du corps, la souplesse du corps. Quand le corps vieillit, il perd sa souplesse. Quand le corps est le corps d'un enfant, il a une souplesse extraordinaire. La souplesse d'un bébé, d'un enfant qui vient de naître, c'est extraordinaire. Et la souplesse des gosses qui font du ski, ils ont une souplesse extraordinaire, ils font des pirouettes en ski. La souplesse du corps des Japonais. Alors qu'ils soignent cette souplesse. Ils la soignent, qu'ils veulent qu'elle reste le plus longtemps possible. Alors que l'Européen, hein, il vieillit vite. Alors il perd sa souplesse. Ben, la disposition, c'est curieux. C'est une qualité très particulière qui accompagne le mouvement. Ordinairement, qui accompagne le devenir, vous voyez, qui accompagne le mouvement pour les qualités sensibles et pour les dispositions sensibles. Et il y a des dispositions, une habileté dans la pensée. Il y a des gens qui sont très habiles et qui ne sont pas intelligents. C'est très curieux, ça. Ils ont une souplesse extraordinaire, vu les situations. Alors, ils sont mobiles. Hein. La mobilité de l'eau, qui prend la forme du verre, de la bouteille, c'est extraordinaire, l'eau. Hein. Ça n'a pas de forme. Ça prend n'importe quoi. La forme de la vague. Hein. Alors, oui, c'est une petite image qui nous aide à comprendre c'est ce que c'est que l'habileté intellectuelle. Il faut une très grande habileté intellectuelle pour être un avocat. Parce que les situations changent et en fonction des situations qui changent, on voit tout les autres qui changent. La disposition est toujours relative à autre chose. Elle ne qualifie pas par elle-même. Elle qualifie du fait qu'elle est ordonnée. Et sa qualité est donc relative. C'est donc une qualité qui n'est que qualité d'autre chose. C'est une qualité relative. Or, la qualité, c'est juste l'inverse de la relation. La qualité, C'est une détermination en elle-même. Et la disposition, c'est une détermination en vue d'autre chose. L'habileté. Oui, l'habileté, quand on parle d'habileté de quelqu'un, mais habileté dans quel domaine? Pourquoi? Vous pouvez être très habile comme voleur. Il y a des voleurs qui sont d'une habileté extraordinaire. Ils arrivent à passer à travers tout, sans qu'on le voie. C'est une habileté. Et l'habileté, c'est une disposition. C'est pas une qualité en soi. On a cette habileté dans l'ordre physique. On passe par le tour d'une aiguille, hein. L'habileté physique. Et une habileté spirituelle, intellectuelle. Il y a des gens qui ne cherchent jamais la vérité et qui restent toujours dans l'habileté. Et vous n'arrivez jamais à les saisir. C'est comme une anguille. Hein. C'est très habile, une anguille. Hein. C'est extraordinaire, comme habileté, comme souplesse. Et intellectuellement, il y a des gens qui ont cette habileté. La rhétorique donne cette habileté. Cette souplesse de pensée, passe un loup, coq à l'âne, vers ce monde, je ne sais pas. Vous pensez qu'il décrit toujours le coq et il parle de l'âne. Ça a passé sans le dire, tout simplement. L'anguille. Il y a des gens qui sont des anguilles intellectuelles. On n'arrive jamais à les saisir. Et donc, ils ont toujours raison, puisqu'on n'arrive jamais à les saisir. Alors, c'est une habileté. Le grec aimait beaucoup cette habileté, l'astuce. L'astuce de quelqu'un, c'est son habileté. Il y a des gens qui sont très bons et pas astucieux du tout. Ils tombent dans tous les panneaux. Et puis, il y a des gens qui sont d'une habileté, mais qui ne sont pas bons du tout. Et qui arrivent toujours à retomber sur leurs pieds. Je ne sais pas comment. Vous savez, comme le chat qui dégringole. Vous avez remarqué un chat quand il regarde le jeu. Et puis, il saute. Voilà. C'est la souplesse. La souplesse du saut est magnifique chez le chat. Vous n'aurez difficilement la même souplesse. Ne la cherchez pas. Ce serait dangereux. Bon, ça, c'est les qualités. Et puis, il y a encore une autre espèce de qualité, c'est la puissance. La puissance d'efficacité. Les facultés sont des puissances. Faculté de voir, faculté de sentir, faculté d'aimer, faculté de comprendre. L'intelligence et la raison. Alors, dans l'intelligence et la raison, vous avez des formes de puissance différentes. Mais la puissance, vous arrivez à la connaître par l'exercice. Vous savez très bien que votre intelligence arrivera à découvrir la malice d'un adversaire. Alors il y a la grosse puissance qu'on calcule, la puissance d'une armée se calcule. Et c'est une qualité. C'est une qualité d'ordre efficacité. Et puis, il y a des puissances en vue de la finalité. La volonté est une puissance capable d'aimer. Enfin, ce sont nos capacités. Les puissances, ce sont nos capacités. Nos capacités à réaliser quelque chose. Bon. Nous avons donc en nous ces quatre espèces de qualités. Alors, ce serait très intéressant à regarder comment ces possibilités de détermination relatives, accidentelles, sont toutes accidentelles. L'intelligence est une capacité de connaître. La volonté est une capacité d'aimer. Et vous avez des capacités inférieures, la force. Vous pouvez soulever des poids. Vous pouvez soulever des kilos. Et cette capacité dépend de la substance, de mon corps substance, et l'intelligence de mon âme spirituelle. C'est grâce à ces capacités que je suis un être dans le devenir. Je peux réaliser ça. Je suis capable d'être éduqué. Je suis capable de changer mon caractère. Mon caractère bilieux, jamais satisfait, peut arriver progressivement à devenir agréable, bon, avoir le positif. Et sûrement que l'éducation porte sur les puissances qui sont en nous. Et un véritable éducateur saisit tout de suite les capacités de quelqu'un, des capacités d'ordre spirituel, intellectuel, les capacités physiques. Pour être un athlète, pour être le premier dans l'ordre physique, pour gagner tous les concours de bicyclette, il faut une capacité. Tout le monde ne peut pas le faire. Il y a une capacité, une puissance qui se développe. Vous développez votre puissance. Ça se développe en s'actuant, et en s'actuant de plus en plus. Mais il y a toujours une force qui reste, un pouvoir virtuel, potentiel, qui me permet d'avoir la possibilité de réaliser telle ou telle action extraordinaire qui me permet d'être premier dans les concours. Ça, c'est une qualité. Mais c'est une qualité virtuelle qui doit s'actuer, qui donc doit être éduquée. Nous sommes capables d'être éduqués à cause, grâce à nos facultés puissance. Tout en nous n'est jamais totalement déterminé. Il y a encore des tas de choses qui peuvent se déterminer. Mon intelligence peut aller à l'infini dans les déterminations. Je ne peux jamais dire, par exemple, qu'en métaphysique, c'est terminé. Pourquoi ? Parce que les métaphysiques regardent l'être. Et l'être est infini en potentialité, en intelligibilité, est infini. Et donc, on peut aller toujours plus loin. On peut aimer toujours plus une personne. Elle est infinie dans sa capacité de finaliser l'amour, d'attirer l'amour. Vous voyez, c'est ça qui est très particulier, c'est que les capacités physiques sont limitées. Les capacités spirituelles sont quasi infinies, peuvent toujours, toujours aller plus loin. Vous pouvez toujours être plus intelligent, vous pouvez toujours aimer plus. Alors, il y a la limite pour l'intelligence, c'est qu'en vieillissant, l'imagination diminue. Or, l'intelligence a besoin de l'imagination. Donc, il y aura le facteur d'invention, d'intuition, qui va diminuer. C'est pour ça qu'on considère que dans le développement de l'intelligence, qu'à partir d'un certain âge, il n'y a plus d'intuition. Il n'y a plus d'intuition mathématique. Et je crois que les intuitions philosophiques demeurent toujours, parce que c'est à l'égard de l'être et des transcendentaux qui n'ont pas de limite, qui sont capables de l'infini. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est comment la substance se manifeste à travers les qualités. On a précisé la substance comme le principe selon la forme de ce qui est. C'est ça la substance. Le principe selon la forme. C'est-à-dire le principe de détermination de tout ce qui est. La substance est le principe de détermination. Donc, elle est détermination dans l'être. C'est dans l'ordre de l'être qu'elle est détermination. Mon être à moi, l'être de l'homme, il se donne à travers une âme et un corps. Je suis déterminé dans mon âme. Mon âme n'est pas une âme angélique. C'est une nature humaine. L'âme principe selon la forme de ce qui est. Et puis, il y a mon corps. Et le corps de l'homme est déterminé selon sa substance. Selon la virtus generativa qui détermine la substance. La procréation est déterminée quant au corps. C'est le corps de l'homme, le corps de la femme, est déterminé. On n'engendre pas un petit animal, le corps d'une brebis. Non. La nature est déterminée, ma substance, mon âme. Mon âme humaine détermine mon corps et détermine ma capacité de procréer, qui est absolument déterminée. Le cycle humain, depuis la conception jusqu'à la naissance, est déterminé. Il peut y avoir des accrocs. Mais autrement, c'est déterminé. Et on peut corriger ces accros. En partie, pas entièrement. puisque l'âme humaine, la substance, est source de la détermination dans l'ordre de l'être, elle est donc immédiatement source de toutes les qualités du corps et de l'âme. C'est pour ça que toutes les qualités que je discerne dans le corps, l'habileté, la force, la puissance, viennent de l'âme. Pas directement quand il s'agit du corps, à travers le corps. Et quand il s'agit de l'esprit, de l'intelligence et de la volonté, c'est direct. Il est bien évident que mes qualités spirituelles d'intelligence et de volonté expriment plus immédiatement ce qu'est mon âme que l'habileté et la souplesse de mon corps ou la puissance de mon corps. C'est pas parce que j'ai des biceps extraordinaires je peux donner des coups de poing à renverser les gens. C'est pas à cause de ça que mon âme spirituelle est très développée. Non. Je dirais, il a un corps de géant. Dans la Bible, on parle des géants. Il y a eu à un moment donné des géants. Et il en reste encore de temps en temps. Dans les foires, quand vous présentez un homme, il n'est pas très intelligent. Mais il est quand même un homme. Il sait lire, c'est déjà quelque chose. Il sait rire, c'est déjà quelque chose. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant à voir. C'est que ces qualités, c'est pour ça qu'il y a les qualités du corps sensible, les qualités de l'âme. Les puissances du corps, les puissances de l'âme. Vous discernez bien dans votre vie les qualités que vous avez. Vous distinguez très bien les limites de vos qualités. Au point de vue du corps. Quand vous vieillissez, vous apercevez que la puissance physique que vous aviez diminue. Et on n'a plus la même force. Mais les puissances intellectuelles continuent d'augmenter. Ils continuent d'augmenter si vous exercez de puissance. Parce que il y a une puissance dormitive qui est très forte. Et vous risquez de vous endormir et de ne plus exercer. Vous voyez, c'est qu'au fond, nos qualités spirituelles, comme nos qualités physiques, demandent l'exercice. Sont liés à l'exercice. Mon âme ne change pas, même si je m'endors. Mon âme ne change pas. Mon âme ne vieillit pas, mais elle vieillit par le corps. Et donc, toutes les qualités sensibles qui passent par le corps, qui sont quantifiées, vieillissent. Et donc, quand je dis qu'elles vieillissent, je veux dire qu'elles perdent leur efficacité, qu'elles perdent leur souplesse, parce que la souplesse est une qualité de la vie. Et quand la vie diminue au point de vue physique, la souplesse diminue. On devient plus rigide, plus dur. Et quelquefois, ça se répercute jusque dans l'intelligence. où on risque, le vieillard risque toujours d'aller plus loin dans la détermination. Vous voyez ? Parce que il a moins de pouvoir inventif. Alors, il se rattrape dans ce qu'il a acquis. Quand on a un grand pouvoir inventif, on n'est pas avare. On donne, on donne, on donne. Et plus on donne, plus le pouvoir inventif augmente. Et il arrive un moment où le pouvoir inventif diminue. Le pouvoir d'imagination diminue. Le pouvoir intuitif diminue. Alors, par le fait même que ce pouvoir diminue, il y a un équilibre qui fait qu'on est plus avare. On regarde plus ce qu'on a. Et ce qu'on possède, on veut le posséder pleinement. Alors il y a un durcissement qui se fait. Mais le durcissement se fait à cause du corps. L'âme ne durcit pas. Et donc, toutes les qualités spirituelles de l'âme ne diminuent pas. Mais tout ce qui est d'ordre physique diminue. Alors, comme il y a une répercussion entre l'âme et le corps, il peut y avoir cette dureté, cette détermination plus grande qui se répercute jusque dans le spirituel. Alors, vous voyez, on dira les entêtements. Quand on parle de l'entêtement d'un vieillard, et c'est vrai, il doit lutter contre l'entêtement. Et l'entêtement, c'est tout simplement parce qu'au fond, il n'y a plus chez lui d'intuition, de développement, d'originalité, de quelque chose de nouveau. Il vit de l'acquis. Alors vivre de l'acquis, ça peut devenir très vite un entêtement. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est très intéressant de voir comment l'âme humaine, spirituelle, unis au corps, est source de ces diverses qualités. Et ça nous aide à mieux comprendre ce que c'est que la substance, parce qu'elle est source de cela. Et quand vous avez un habitus intellectuel, vous comprenez mieux ce qu'est l'intelligence. C'est une qualité d'une qualité. C'est ce qu'il y a de tout à fait caractéristique aux puissances spirituelles. La puissance de l'intelligence, elle a sa qualité propre d'intelligence. Mais à cette intelligence va s'ajouter les habitus. On a donc une qualité d'une qualité. Et la qualité d'une qualité est donc plus loin de la source que la qualité elle-même. Mes habitus intellectuels me font moins comprendre ce qu'est l'intelligence que ma puissance intellectuelle. Forcément, qualité d'une qualité. Au fond, on voit là la souplesse de la substance spirituelle de l'âme. Ceci, c'est très important à bien comprendre, à voir combien l'âme est source de toutes ses déterminations, de ses qualités. Le corps, qui est aussi ma substance, est source de la quantité immédiatement. Bon. La grosseur de mon corps, la finesse de mon corps ne dépend pas directement de mon âme. Vous ne pouvez pas dire quelqu'un de très puissant. Il a une âme qui monte cette puissance qu'il a au point de vue physique. Non. C'est le corps. Et alors là, je crois ça très important de voir que il y a des qualités physiques qui manifestent très nettement la quantité de mon corps substance. Parce que mon corps n'est pas uniquement quantité. Même chez des êtres extrêmement opulents, il n'est pas uniquement quantité. La substance de mon corps se manifeste à travers la quantité. Alors ça, c'est évidemment très visible. On voit plus facilement ce qu'est le corps humain, la quantité du corps humain, sa figure, sa physionomie, que la physionomie de l'âme. La physionomie de l'âme reste toujours cachée. Tandis que la dimension corporelle, la quantité. La quantité manifeste, ce qu'on dira, l'individu. L'individuation, le caractère individuel de chacun est manifesté par la quantité, par les qualités aussi, c'est sûr, mais à travers la quantité. C'est justement les sensibles communs. L'individu est fait avant tout des sensibles communs. Il fait de la quantité qui est le divisible en nous, qui est la capacité que j'ai de devenir. Tout mon devenir est quantité. Et il se voit, il se mesure. C'est là le point de vue tout à fait particulier de la quantité, c'est que la quantité est le mesurable en moi. Grâce à ma quantité, je suis un être mesurable. Donc on peut donner une carte d'identité, il mesure tant, il a tel poids. Et le poids évidemment change assez vite. La taille, à un certain moment, ça ne change plus. Ça descend. Ça se tasse. Ça se descend. Alors, ça, c'est la quantité. Et c'est évidemment ce qui peut se voir le mieux. Les vraies qualités restent cachées. Mais les qualités qui se manifestent à travers la quantité sont très visibles. Et donc, l'aspect substance matérielle du corps se manifeste pour moi à travers la quantité. Alors, il faut comprendre, mon âme spirituel ne se dévoile absolument pas par ma quantité. La quantité dépend de tout l'atavisme. Mon âme vient directement de Dieu. Donc, mon âme s'exprime à travers mes qualités. mon corps, l'aspect substantiel de mon corps, parce que mon corps fait partie de mon être substantiellement. Mon corps est source de toute la quantité qui est en moi. Et par là, je suis un être mesurable. Je suis un être grand, petit, gros, maigre. Évidemment, ça n'exprime pas grand-chose de ma substance spirituelle. C'était le père Garrigou Lagrange. On raconte cette histoire. Il était toujours. Il avait demandé. Il était à Rome et sa sœur devait venir à Paris. Alors il avait écrit à un frère : vous la reconnaîtrez tout de suite. Elle est très intelligente. Et alors, heureusement qu'il mettait. Elle est petite. Donc. Son intelligence ne se manifestait pas tout de suite. Il fallait parler avec elle. Alors si vous pouvez distinguer quelqu'un par son intelligence, vous devez parler à tous ceux du train. Vous voyez ? Là, on voit bien la différence entre la personne et l'individu. Les qualités spirituelles vont être des qualités dominantes pour ma personne. Alors que la quantité exprime l'individu. Et donc, j'ai tout de suite cette distinction à faire en fonction du corps. Je suis un individu. Un individu qui a son histoire, qui a ses antécédents. C'est évident qu'au point de vue individu, l'origine des parents joue énormément, puisque le corps, c'est la nature, en premier lieu. Et donc c'est l'individu. Donc mon corps se caractérise, mon corps caractérise l'individu. Alors que mon âme spirituelle va pouvoir se développer du côté personnel. L'individu grand ou petit peut avoir une âme spirituelle, aussi bien le grand que le petit. Vous ne pouvez pas dire tous les petits sont plus intelligents que les plus grands. Pas du tout. C'est deux choses différentes. Et ça maintient toujours une différence. Et donc il faut, à l'égard de la substance, de notre substance, il faut voir ce qui relève directement de ma substance spirituelle, de mon âme, et ce qui relève directement de l'atavisme. Il y a un lien entre les deux, mais au point de vue source, c'est très différent. Du point de vue source de mon âme spirituelle, puisque mon âme est créée par Dieu, et mon âme spirituelle est substantiellement la même. Mon corps, il provient de mes parents, de tout l'atavisme physique. Il est porteur de tout cela. Et tout cela se réalise en lui d'une façon spéciale. Donc, la quantité qui est source de l'individu est diverse selon les atavismes très différents. Et plus on s'écarte de l'origine, plus l'atavisme est important. Oui, l'atavisme est plus important dans notre siècle, troisième millénaire, que au Moyen Âge. C'est très curieux. Mon âme est toujours la même. Elle est créée par Dieu. Mais l'atavisme varie. Et il est évident que l'atavisme humain, en général, joue un rôle de plus en plus important. Mon âme est toujours la même, créée par Dieu, comme l'espèce. Et là, il y a justement le caractère propre de l'individu qui va se manifester de plus en plus. Et il y a ce phénomène qu'on constate. Le point de vue de la nature et le point de vue de la personne vont se modifier. La nature était plus dominante au Moyen Âge que maintenant. Et la personne et le développement de la personne se fait avec une plus grande intensité, avec une plus grande force. Et la nature est assumée beaucoup plus par la personne. Et on voudrait, et c'est la tentation, on voudrait que la personne assume complètement la nature et la transforme. Ça, c'est le rêve humain, ça. C'est la nostalgie humaine actuelle. Et voyez, le problème philosophique montre que on dépendra toujours par notre corps de cet atavisme. Et cet atavisme se fera sentir toujours plus. Le point de vue spirituel et personnel est toujours le même. Mais il se modifie en raison même qu'il doit assumer l'individu. Ma personne et mon individu doivent être de plus en plus unis. Ma personne n'est vraie que quand elle a parfaitement assumé l'individu, la nature. Si ma personne lutte contre ma nature, elle peut lutter contre la nature pour l'ennoblir, pour lui permettre d'aller plus loin, mais toujours en la finalisant. Autrement, c'est une lutte interne entre l'individu qui est en moi et la personne qui est en moi. L'individu regarde tout l'atavisme et la personne cherche à être de plus en plus personnelle, donc libre à l'égard de l'atavisme. Alors qu'elle doit comprendre qu'elle ne peut jamais se libérer totalement de l'atavisme. Il y a un donner de l'individu qui demeure toujours. Et la personne devra accepter de se modifier en raison de cet atavisme. Parce que cet atavisme, il ne peut pas le modifier totalement, il ne peut pas le nier. Il existe. Et cet atavisme existant, il doit justement le voir bien en face. C'est jamais lui qui doit me déterminer. Il peut me conditionner, mais pas me déterminer, parce qu'il me conditionne forcément, mais il ne doit pas me déterminer. Mon détermination vient toujours du développement de ma personne. Et le développement de ma personne sera le développement de la partie spirituelle de mon âme, intelligence et volonté. Vous voyez ? On peut par là comprendre le combat fondamental qui est en nous, en chacun d'entre nous. Notre atavisme et le développement d'autres personnes. Et le développement d'autres personnes doit accepter cet atavisme, non seulement le supporter, mais s'en servir pour développer harmonieusement ma personne.